peu de temps là. Seigneur, c'est le moment d'entendre ta parole proclamée. Apaise en nous toute pensée distrayante, retarde en nous les jugements hâtifs pour que nous soyons à ton écoute. Et donne-moi la sagesse et l'amour pour prêcher ton évangile avec force. Amen. Ce matin, c'est pas parce que le temps est court, mais j'ai un verset pour vous. Et comme ça, ce sera plus simple à traduire, non. Et c'est marrant, en fait, c'est un verset qui est revenu papillonner dans ma semaine et qui s'est mélangé avec la triste actualité que nous connaissons, qui est venue se mélanger avec des accompagnements que je fais et des visites aussi que j'ai eues de personnes. Des préparations au baptême que je fais. Et le voici. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ce verset fait partie des béatitudes. Vous les connaissez peut-être toutes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux. Matthieu 5, si vous cherchez. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on rendra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Heureux ceux qui pleurent alors. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y aurait pas mal de choses sur lesquelles ça mériterait de pleurer un peu. Le conflit entre Gaza, la Palestine et Israël qui a recommencé après beaucoup d'années d'apaisement et des relations qui allaient vers la normalisation entre Israël et quelques pays voisins. L'Arménie qui se fait envahir par l'Azerbaïdjan. Des tremblements de terre, pas si vieux que ça, qu'il y a eu au Maroc, et puis l'inondation en Libye. Plus près de chez nous, on a eu aussi cet assassinat qui a eu lieu la semaine dernière, en fin de semaine, d'un enseignant ainsi que des collègues à lui qui ont été grièvement blessés. La guerre en Ukraine en fond de tout ça. Oui, on a bien des raisons de pleurer, de pleurer. Mais parlons-nous franchement. Nous, les Occidentaux, on ne sait pas bien pleurer. Alors oui, il y a toutes ces questions de tempérament, d'introverti, d'extraverti. Mais globalement, on ne sait pas bien pleurer. Nous sommes une culture qui a appris à pleurer en silence, à pleurer seul. Mais je pense que bien peu d'entre nous, nous avons le courage de chercher quelqu'un, la compagnie de quelqu'un lorsque nous avons envie de pleurer. Heureux ceux qui pleurent. En préparant un jeune au baptême, je lui confrontais à ce verset et je lui disais, qu'est-ce que tu penses que le monde nous apprend le plus? Qu'est-ce que tu prends qu'en Occident, qu'en Europe, qu'en France, on nous apprend le plus? À pleurer ou à ne pas pleurer? Il me répond, faut être dur. Quand on pleure, on a l'air faible. Et si on a l'air faible, on va se faire bouffer. Et je lui dis, mais est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent sur Terre, en Europe, en France? Il me dit, tout le monde. Tout le monde souffre. Je lui dis, est-ce que tu es sûr que tu auras une maison et que tu seras marié, que tu auras des enfants, que tu auras un bon boulot? Il me dit non. Je lui dis, est-ce que tu es sûr que tu vas souffrir dans ta vie? Il me dit oui. Qui d'entre nous échappe à la souffrance? Qui d'entre nous ne peut ne pas voir la souffrance? Il y a trois choses qui sont certaines, je dirais quatre. Nous naissons, nous souffrons, nous mourrons, et j'ajoute, nous rencontrerons Dieu. Si la souffrance est si universelle, comment se fait-il que nous soyons si seuls pour l'affronter? Alors notre monde nous encourage à nous endurcir. Quand on pleure, on a le cœur qui déborde. J'explique à mes enfants, quand tu pleures, c'est ton cœur qui est tellement rempli d'émotions qu'il faut que ça sorte. Alors ça sort par les yeux. Qu'est-ce qu'on y peut à nos émotions? Elles sont bienvenues, nos émotions. Elles sont comme les voyants de mon tableau de bord quand je conduis une voiture. Ah, un voyant rouge s'allume. Vite, je vais demander à Rémi de couper le câble pour que le voyant s'éteigne. Ouf, plus de problème. Vous n'avez rien résolu du tout. Vous avez coupé le voyant. Mais la panne mécanique, le manque d'huile, le moteur qui chauffe, continue de chauffer. Nos émotions ne sont pas contre nous. Pas plus que le voyant qui s'allume sur un tableau de bord est contre vous. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ceux qui pleurent dans ce monde, c'est ceux qui acceptent de ressentir tous les enjeux de ce qui ne va pas. Ceux qui pleurent dans ce monde, c'est ceux qui choisissent, qui persévèrent à ne pas s'endurcir, à ne pas devenir cynique. C'est plus facile de passer à côté d'un SDF et de se tenir à raisonnement. Ah, il n'a pas fait les bons choix. Mais pourquoi est-ce qu'il vient en France si au moins il travaillait? Ou des choses comme ça. Parce que la réalité, c'est que quand on passe à côté d'un quelqu'un qui manque de tout, alors que nous, on s'en sort pas bien. Tournez le problème comme vous voulez. Comme vous voulez. On ne peut pas s'en sortir bien. Celui qui pleure, c'est celui qui accepte qu'il y a des choses, on ne peut pas s'en sortir bien, et qui arrête de chercher à les fuir, de les tourner d'une manière ou d'une autre. Oui, ce monde est tordu, ce monde est cassé, il marche. Mais il ne marche pas bien. Alors on pleure. Ceux qui pleurent, c'est aussi ceux qui comprennent que pleurer, ça ne sert pas à rien. Quand on a fait notre week-end d'église, une des choses qui parfois nous empêche de passer du temps dans la prière, comme je l'avais dit, c'est cette liste de tâches à faire, de projets qu'on a dans notre tête, et puis quand on s'assoit pour prier avec le Seigneur, elle est là, cette liste. Et puis on prie, et puis cette liste, elle ne diminue pas. Et quelque part, on n'a pas forcément l'impression qu'en priant, on est en train de faire avancer les choses. Et c'est difficile, parfois pour nous, que la prière soit perçue comme quelque chose où on fait vraiment. Et pleurer, c'est pas faire. Pleurer, c'est pas reprendre le boulot. Pleurer, c'est pas ranger la maison. Pleurer, c'est pas aller au travail. Et peut-être que comme la prière, on a l'impression que quand on pleure, ça sert à rien. Mais je vous garantis que non. Pleurer, c'est prendre le temps de considérer. Pleurer, c'est mesurer la profondeur de la blessure. Pleurer, quand on contemple un drame qui ne nous est pas directement lié, mais qui concerne un drame qui nous est extérieur, c'est être dans la compassion. Compassion qui veut dire souffrir avec. Dans notre monde, peut-être que ceux qui pleurent sont des faibles. Dans les yeux de Jésus, ceux qui pleurent, c'est des héros. Ceux qui pleurent, c'est des prophètes. Ceux qui pleurent, c'est ceux qui refusent. Les lois de ce monde-là, mais qui continuent de croire dans les lois du royaume qui vient. Si je crois qu'un jour, toutes les larmes seront séchées et essuyées de mes yeux par le Christ, comment est-ce que je peux en même temps, ici et maintenant, me dire et dire à ceux qui m'entourent, la vie est dure, il faut que tu t'endurcisses. Si je crois que toutes ces souffrances et ces malheurs et ces violences et ces injustices et ces abus cesseront un jour, donc je crois qu'ils sont anormaux, je crois qu'ils n'ont pas lieu d'être, qu'ils ne devraient pas exister, puisque je crois qu'un jour tout sera réparé. Si je crois que ces choses-là sont des réalités qui n'ont pas leur place dans ce monde-là, je ne devrais pas chercher à m'endurcir contre elles pour qu'elles ne me fassent plus rien, pour être insensible. Vous savez, ce cynique qui voit bien, qui a bien compris le système et qui fait juste attention à ne pas tomber dedans. Et enfin, ce qui pleure et ressemble à Jésus. Ce qui pleure ressemble à Jésus, qui a beaucoup pleuré. En tout cas, on sait qu'il a pleuré au moins 3 fois, c'est sûr. Il a pleuré devant Jérusalem, la ville du temple de Dieu, la ville de la maison de Dieu. Et lui-même, Dieu fait homme, qui vient visiter sa ville et sa maison, et eux qui le rejettent. Il ne pleure pas sur lui-même. Il ne pleure pas parce que lui a été rejeté ou qu'il a subi une injustice. Il pleure devant l'entêtement de son peuple, l'aveuglement de son peuple, la folie des autres. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il ne doutait pas un instant, je pense, qu'il allait ressusciter son ami. Pourquoi pleurer alors? C'est le plus court verset de la Bible d'ailleurs, dans Jean. Jésus pleura, point. Il pleure parce qu'il voit tout le monde qui pleure. Il voit Marie qui était en larmes, les personnes tout autour qui étaient en larmes. Et cette mort qui avait fait ce vide dans leur vie. Et Jésus, ému, sensible, attentif à ce qui se passe, il a pleuré avec eux. Il n'a pas fait le dur, hein. Il n'a pas fait le dur. Il a pleuré avec eux. Et la dernière, vous la connaissez. Gethsémané, dans le jardin des Oliviers. Et là, il a pleuré sur sa propre souffrance. Il a pleuré parce qu'il avait peur. Il a pleuré parce qu'il ne voulait pas vivre ce qui allait se passer devant lui. Et il a supplié son père 3 fois de lui accorder un autre chemin. Dans ma liturgie, je vous ai dit, que le Seigneur Dieu, créateur du monde, s'est reposé le septième jour. En vérité, tout à fait entre nous, au bout de 6 jours de travail, il n'avait pas une goutte de sueur sur le front. D'ailleurs, il n'a pas de front, mais avait-il réellement besoin de se reposer ? Mais si Dieu se repose de son œuvre, à plus forte raison, nous, qui sommes finis et limités, nous nous reposerons aussi de nos œuvres au moins un jour par semaine. Et si Jésus pleure, notre maître, notre guide, notre sauveur, l'humain le plus humain qui soit, ne devrions-nous pas avoir le droit de pleurer ? Ne devrions-nous pas prendre le temps de pleurer ? De pleurer des blessures, de pleurer des séparations, de pleurer des deuils, de pleurer des drames. Qui d'entre vous n'a pas eu cette grâce, et je dis bien cette grâce, un jour, d'accueillir quelqu'un qui n'allait vraiment pas bien et qui s'est livré à vous et vous l'avez reçu, et peut-être cette personne a pleuré et vous étiez là, bienveillant, et peut-être même vous avez pleuré avec cette personne. Dites-moi, est-ce que vous en gardez un mauvais souvenir ? Est-ce que vous en gardez un mauvais souvenir ? Ou est-ce que c'était un moment précieux ? Nous avons besoin les uns des autres. Quand nous pleurons nos tristesses, et quand nous nous accueillons pour pleurer nos tristesses, il y a de la fécondité, il y a de la guérison, il y a de l'apaisement. En fait, il y a l'amour de Dieu qui vient. Et nous ne sommes pas faibles quand nous pleurons, nous sommes vivants, sincères, lucides. Et nous ne sommes pas dépendants des autres, nous sommes juste humains. Aucun être humain n'est fait pour être complètement seul. Frères et sœurs, le royaume des cieux change beaucoup de choses dans la façon de voir le monde. Il y a beaucoup de choses qui renversent de haut en bas. Le puissant qui ne se fait pas servir, mais qui se met au service. Et là, celui qui pleure n'est pas un faible, il est un sage. Celui qui s'endurcit pour ne pas pleurer, peut-être parce qu'il a été élevé comme ça, peut-être parce qu'il croit que ce monde est dur et qu'il faut être dur. Comment disait Nietzsche, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Frères et sœurs, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Ce n'est pas un chemin de faiblesse, c'est un chemin d'authenticité qui demande du courage, mais qui ouvre entre nous et qui ouvre aussi entre nous et le Seigneur beaucoup de place pour la guérison, la communion, l'amour. Bien sûr, on n'est pas capable de le faire avec n'importe qui, mais on peut trouver des personnes qui nous écouteront, qui nous accueilleront, qui nous comprendront. Il n'y a rien de plus précieux pour traverser des deuils. Et des deuils, ce n'est pas que quand on perd quelqu'un, c'est tous les changements de vie radicaux. Ça peut être un diagnostic qui tombe. Ça peut être tous mes enfants qui sont partis de la maison et je me retrouve seul avec mon mari ou avec mon épouse. Ça aussi, ça peut être un deuil. Tous ces moments où ma vie d'avant n'est plus là et j'y peux rien. Tous ces coups durs. Et oui, une dernière chose, parce qu'il est déjà midi, mais Pourquoi est-ce que j'ai relié ça aussi avec toute notre actualité, avec le conflit israélo-palestinien, avec toutes ces questions-là? Parce que parfois, je vois qu'on saute cette étape de pleurer et qu'on passe directement à « on va choisir un camp, on va être dans l'action, on va militer, on va écrire, on va parler, on va brandir des choses ». Prenez le temps de pleurer d'abord, de mesurer qu'est-ce qui est en train de se passer. Ces Gazaouis, certains certainement ne veulent pas la guerre. Ces Israéliens qui croyaient peut-être à enfin quelque chose de réconciliant. Et il n'est pas rare que j'accompagne des gens qui ont perdu quelqu'un, que je dois enterrer, et qui se précipitent à clore leur deuil. Et qui ne prennent pas le temps de pleurer. Globalement, on ne prend pas le temps de pleurer parce que il faut être fort, il faut être dur, il faut reprendre, il faut être productif. Et que pleurer, ça ne sert à rien. Mais frères et sœurs, je vous encourage à croire que non. Je vous encourage à croire que non. Et que tout ce temps que vous passerez à pleurer et à raconter votre peine à quelqu'un qui vous aime et qui vous accueille bien est autant de temps qui vous fortifiera pour passer le cap et continuer avec le Seigneur. Et si jamais vous êtes seul et que vous ne trouvez personne, Dieu est toujours là, toujours là. Et la Bible nous dit qu'il est proche des cœurs brisés. Amen.